cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Alors, c'est l'heure de la chronique judiciaire avec Félix Séguin et il vient nous parler d'André Poitlaire. Alors, on va parler d'André Boisclair qui a plaidé coupable hier pour des accusations d'agression sexuelle sur deux personnes et qui va probablement retrouver le chemin des barreaux, derrière les barreaux pour 2 ans moins 1 jour, qui est finalement l'entente qu'a eue la couronne avec les avocats de la défense. Qui vont de proposer finalement 2 ans moins 1 jour derrière les barreaux. Je ne sais pas si Félix Séguin est avec nous. Il y a un petit problème technique, mais on se rappelle qu'André Boisclair a été chef du PQ, il a été délégué du Québec à New York, a été ministre plusieurs fois, il a été PDG de l'Institut urbain du Québec et finalement, il se retrouve devant un procès où il a décidé de plaider coupable et donc on connaîtra sa sentence le 18 juillet et on a avec nous Félix Séguin. Bonjour Félix.
Bonjour Yasmine.
Alors, je parlais d'André Boisclair qui a plaidé coupable hier et c'était toute une journée au Palais de justice.
Ben oui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il faut refaire un peu le portrait, l'importance de l'homme politique, mais l'importance de l'homme politique en regard de ce qui lui arrive maintenant, c'est-à-dire c'est probablement au Québec l'un des politiciens qui a connu une chute, une descente aux enfers les plus rapides parmi eux, parce que les accusations auxquelles il faisait face, donc pour les rappeler là, elles sont extrêmement sérieuses. Quand on parle d'agression sexuelle armée, quand on parle d'un tiers aussi qui est impliqué dans cette même agression sexuelle contre 2 jeunes hommes, ce sont au sens là des crimes très graves. Puis on se demande maintenant, bon, pourquoi on suggère. Les avocats, tant de la défense que de la couronne, sont mis d'accord. Là, on dirait qu'il y a eu un deal.
Ah oui, il y a eu une entente, les deux.
Ben, c'est ça. Donc, puis ça, tu sais, pour référence, c'est monnaie courante, bien sûr, les ententes entre la défense et la couronne. Puis on y va d'une suggestion commune pour une peine en échange, exemple, d'un plaidoyer de culpabilité.
Ce qui est arrivé hier.
Ben, c'est ça. C'est arrivé hier. Donc, on suggère 2 ans moins 1 jour. 2 ans moins 1 jour, on sait pourquoi. On fait ce genre de suggestion, c'est que on sera emprisonné dans une prison et non un pénitencier. Donc, au Canada, les pénitenciers sont gérés par le gouvernement du Canada, donc ce sont des établissements fédéraux, et les prisons relèvent de la province du Québec. Donc, c'est une sentence là, à chaque fois qu'on octroie, c'est plutôt qu'on prononce une sentence de 2 ans moins 1 jour à l'endroit d'un accusé, mais il s'en va dans une prison. Donc, il s'en va au provincial, comme on dit. Par contre, ce qui est particulièrement bien dans notre système, c'est que le juge n'est pas tenu de respecter la suggestion des deux avocats. Et ça, c'est important à mentionner, parce que le juge n'a pas sur le banc déjà rendu la sentence, parce que bon, des fois il y a des sentences qui sont automatiques, comme le meurtre prémédité, exemple d'un policier, on s'en va pour 25 ans sans libération, c'est automatique. Sauf que là, il y aura une représentation, les représentations sur sentence seront faites, le prononcé sera fait plus tard, sauf que André Boisclair n'échappera pas à la prison. Donc on parle d'un ex-chef politique qui se retrouvera en prison. Moi, pour moi, c'est pas rien, mais c'est une preuve aussi que notre système, à quelque part,
fonctionne. Exact. Et il fonctionne pour le cas d'André Boisclair, mais je dirais qu'il est beaucoup plus efficace que les enquêtes de Hockey Canada.
Ah, mon Dieu, hein. J'ai regardé, en fait, de longues minutes hier ce qui se passait à Ottawa, parce que les gens de Hockey Canada, les bons, on devrait dire, de Hockey Canada, étaient devant le comité permanent du patrimoine
canadien.
C'était
gênant, Félix.
Réponses pour le financement. Je ne sais pas si tu as vu, toi aussi, un peu ce qui s'y passait. Je souligne, là, donc, on sait qu'il y a 8 joueurs de Hockey Canada qui sont maintenant pour une partie dans la Ligue nationale, qui ont été impliqués dans une affaire de viol collectif en 2018. On ne sait pas c'est qui. Et Hockey Canada... Hockey Canada a été incapable d'affirmer hier devant ce comité permanent de dire, ben, on peut pas dire c'est qui, mais ils sont même pas en mesure de les identifier, là. Donc, on doit prendre pour acquis que Hockey Canada ne sait pas quel de ses joueurs s'est livré un viol collectif sur une jeune femme qui a décidé de pas porter plainte à la police, puis qui s'est contentée, c'est son droit, d'un règlement là hors cours après une poursuite qui a été intentée. Et
hey, mais Félix, moi j'ai envie d'envoyer mes tickets de...
Ils n'ont pas été tenus de collaborer, Yasmine, ce qui me scie un peu quand même.
Moi, je vais commencer à envoyer mes tickets de stationnement à Hockey Canada de manière anonyme, là, en espérant qu'ils les payent, là, parce que visiblement, ils payent pour les infractions des autres sans se poser trop de questions.
Ben, c'est justement. Et encore là, je veux pas faire un abus de positivisme ce matin, mais hier, j'ai vu une preuve que le Parlement fonctionnait. Parce que depuis le début de cette crise qui secoue Air Canada, c'est probablement
la
tribune où on aura eu le temps et aussi le doigté de poser le plus de questions pertinentes et de faire sortir le plus d'informations pertinentes sur l'incurie de Hockey Canada. Donc, ça me réjouit, ça, de notre système parlementaire, que ces comités permanents, bon, on n'a pas le choix, hein, quand on y est convoqué, on peut pas dire non, désolé, j'irai pas. Et je trouve que l'exercice a été extrêmement pertinent hier pour ce qu'on devait savoir de ce dossier-là, même si, au fond, ce qu'on a su, c'est que Hockey Canada savait même pas. Mais on a pu prouver, en fait, qu'il y a certaines dysfonctions dans leur organisation.
Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et une autre dysfonction dans des organisations, on va parler de notre cher Passeport Canada, le chaos pour aller chercher un passeport à Laval, encore une fois.
Ben oui, puis on a tous, je sais pas si t'as tes histoires de passeport, ou je sais pas si c'est dans... Bon, tu vois, moi aussi j'ai mes histoires de passeport, et en fait je t'en parle un peu juste parce que quand j'ai vu la police intervenir hier à Laval, je me suis vraiment dit que ce sont pas des scènes qu'on est habitué de voir dans le plus meilleur pays au monde. Bon, on sait, là, pour ceux qui savent pas, hier la police a dû intervenir à Laval, donc près du bureau de Service Canada, parce que les demandeurs de passeport coupaient la file, s'impatientaient, et là il a fallu que la police intervienne. Puis tu as vu qu'ils ont dû physiquement restreindre des gens qui attendaient pour leur passeport parce que le civisme s'est perdu en cours de route, puis il y a eu des incivilités, puis un paquet d'affaires. Mais moi, cette crise des passeports-là, je ne sais pas si on peut appeler ça une crise des passeports, mais moi, j'appelle ça, dans mon langage, c'est une véritable crise que traverse avec ça le gouvernement du Canada. Puis c'est une crise qui brime aussi le droit à quelqu'un de sortir, c'est pas un droit fondamental, tu me diras, mais qui brime
à
tout le moins.
C'est pas un privilège.
Ben oui, puis cette possibilité de quelqu'un de sortir graduellement de la pandémie, et c'était imprévisible et tout ça. Moi, je te raconte mon histoire en terminant, Yasmine. On devait voyager en Europe avec la famille. Et le 20 mars, j'ai commencé à regarder des billets d'avion parce que, bon, comme un peu tout le monde, ça me tente pas de payer la totale pour mes billets. Si je suis capable de payer moins cher, ben je vais le faire. Le 20 mars, je réalise que que le passeport de ma plus jeune est échu. Je l'ai demandé, ce passeport-là. Je ne l'ai eu qu'il y a 4 jours. Donc, ça a pris presque 3 mois. Et pour après essayer de rebooker ces mêmes billets d'avion-là, qui, après être passés de 4 000 quelques dollars, sont passés à 8 000 $.
Évidemment. Parce qu'en fait, Passeport Évidemment. Canada veut Donc, s'assurer que tu as vraiment besoin de tes vacances.
On avait prévu quoi, un peu de Paris, un peu de musée, puis pour les enfants, puis pour ma blonde, c'est super intéressant. N'a pas voyagé pendant la pandémie. Moi, j'ai continué à voyager pour le travail. Bref, je trouve que ça nous... c'est très, très, très indisposant, cette crise des passeports.
Espérons et continuons. On va continuer à espérer que ça puisse se résorber rapidement. Félix Séguin, à demain.
À demain. Bye-bye.
Et donc, c'est l'heure des nouvelles avec Alexandre Moranville. Comment ça va, Alexandre?
Ça va super bien, toi, Yasmine.
Ça va bien, le jumbo a sombré.
Hey, j'ai deux nouvelles sud-asiatiques aujourd'hui qui tombent comme ça, là. Une hier, une dans les dernières heures. Le jumbo, là, ça, c'est le célèbre restaurant qui flottait à Hong Kong. C'est un bateau énorme qui était construit comme un palais impérial chinois. Il mesurait 76 mètres. Était là, donc, un lieu de prédilection pour les fruits de mer, entre autres. C'est comme un énorme restaurant. La reine Elisabeth II est déjà allée là. Tom Cruise, ça a déjà été dans plein de films. Ça, c'était vraiment emblématique.
Un arrêt obligatoire à Hong Kong.
Arrêt obligatoire à Hong Kong. Sauf que depuis quelques années, depuis 2013, pour être précis, mais ce restaurant-là, à chaque année, ça coûtait des millions de dollars d'entretien. Et les touristes venaient de moins en moins. En plus, la pandémie s'est abattue là-dessus. Alors, c'était difficile de continuer à entretenir ce bateau-là. Et là, tiens, tiens, il est parti d'Hong Kong il y a quelques semaines de cela avec une destination inconnue. On dit avoir fait plein d'inspections dessus, s'assurer qu'il pouvait flotter, tout allait bien. On y est parti en mer et, oups, il a sombré dimanche,
on
semble-t-il.
On s'y attendait tellement pas.
Ouais, renversé et tombé. Et là, il est dans des eaux de plus de 1000 mètres. Donc, c'est impossible de le renflouer, malheureusement. La compagnie se dit extrêmement attristée. Mais du même coup, ils révèlent leurs états financiers en disant « Ça allait vraiment mal, ce bateau-là. Ça saignait de l'argent partout. » Il a coulé. Oups.
Bon. J'imagine qu'il était bien assuré.
Ça, on le sait pas, mais c'est vraiment étrange de la compagnie de comme assumer immédiatement que c'était vraiment une perte financière monumentale, puis tout d'un coup, sans dire pourquoi ils font flotter, ils l'envoient au plein milieu de la mer, ils coulent. Bon, c'est une drôle d'histoire, mais bref, c'est triste quand même, là, ce bateau-là qui était emblématique à Hong Kong, qui tombe. Et l'autre, c'est un record, Yasmine, hier, qui a été battu.
Un pêcheur.
Des pêcheurs, parce qu'un seul pêcheur aurait pas pu faire cette prise-là.
Non.
Des pêcheurs au Cambodge, dans la rivière Mekong, qui ont pêché, et là, c'est officiel, il a été pesé, mesuré, le plus gros poisson d'eau douce au monde, jamais capturé. Et c'est pas n'importe quel poisson, c'est une raie. Une raie gigantesque qui fait près de 4 mètres de long, là, 13 pieds.
C'est énorme.
C'est énorme, là. C'est deux hommes et plus de long, là, vraiment. Ça pèse 660 livres, cette raie-là.
C'est énorme.
Elle est colossal, là. Il y a des photos qui ont été prises. Ils l'ont relâché, là, heureusement, ce bel animal-là. Mais on voit, là, c'est des pêcheurs qui le tiennent. Ils sont nombreux. Ils sont des dizaines à être dessus, à le tenir. Vraiment, c'est une raie énorme et gigantesque. Ça bat donc le record. C'était encore dans la rivière Mekong. Cette fois-là, c'était un poisson-chat géant. Lui, en 2005, il avait été capturé à 646 livres. On n'était pas très loin.
C'est énorme.
Ouais. Donc, dans poisson d'eau douce, c'est le plus gros au monde.
C'est bon de la raie. Sur le barbecue.
Ah ouais.
Sel, poivre, jus de citron. C'est excellent. Je vous donne la recette pour la Saint-Jean.
Génial.
Alexandre, le micro est à toi.
Salut.
Alors, et je souhaite à tous nos auditeurs une très belle journée. On se retrouve demain matin, 7h.